Bonjour Madame Rudzewski.
Bonjour.
Je vous remercie au nom de l'ensemble de l'équipe du CN2R d'avoir accepté d'inaugurer cette série de podcasts au sujet du procès des attentats du 13 novembre 2015. L'objectif de cette série, c'est de fournir des éclairages à la fois précis et complémentaires, permettant une meilleure compréhension des enjeux du procès pour les victimes et leurs proches, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. La thématique que nous abordons aujourd'hui avec vous est celle du traumatisme psychique et de sa reconnaissance au sein de notre société. Vous avez consacré une grande partie de votre vie à cette reconnaissance et nous allons aujourd'hui voir les dimensions et les retombées de votre combat. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter afin que nos auditeurs puissent connaître le parcours de vie qui est le vôtre.
Donc, j'ai été victime d'un attentat le 23 décembre 1983 avec mon mari. Nous dînions dans un restaurant pour célébrer nos 10 ans d'anniversaire de mariage. Et vers 10h30 du soir, une explosion a eu lieu. Et je me suis retrouvée écrasée par la porte du restaurant et au sol. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais très mal. Et les pompiers sont arrivés, je crois, très très vite. Et ils m'ont transportée à l'hôpital. Mon mari était là, il était debout, il avait des blessures un petit peu comme ça, mais je le voyais debout. Et il s'est penché vers moi et il m'a dit « Est-ce que tu vas tenir le coup ?» Et je lui ai dit « Je te le promets ». Et de cette promesse, je me suis battue pour ma survie. J'ai été 7 semaines en réanimation et ensuite en soins intensifs. Et aujourd'hui, j'en suis à plus d'une centaine d'opérations pour la restructuration de mes jambes. Malheureusement, j'ai pas pu garder il y a 2 ans et demi une de mes 2 jambes et j'ai été amputée alors que j'avais consacré une 30aine d'années à lutter contre cette amputation. Mais je dirais que, tant juriste, j'ai très vite demandé des bouquins de droit et j'ai commencé à réfléchir. Mais mon mari, lui, a eu en fait des égratignures, pas grand-chose, mais il a eu un choc traumatique très, très grave et qui l'a, jusqu'à la fin de sa vie, il a été tout le temps dans le déni. Et petit à petit, il avait un vrai tableau de syndrome post-traumatique. Alors que moi, grièvement blessée, j'ai survécu au prix de beaucoup de difficultés, outre mes blessures dues à l'attentat. On était dans les années 83 avec des problèmes de transfusion. Et il a fallu, pour me sauver, me faire des transfusions massives, donc transmission du sida et de l'hépatite C, donc avec des conséquences assez graves, mais je regrette rien puisque je suis encore en vie aujourd'hui. Donc voilà. Et donc mon combat d'abord a été juridique et j'ai réalisé que pour les victimes du passé, parce que le terrorisme pour moi a commencé en 1974 avec un attentat perpétré par Carlos au drugstore Saint-Germain avec 2 morts et des dizaines de blessés. Ce terrorisme-là, post-guerre d'Algérie, avait fait de nombreuses victimes dans les années aussi 80, 81, 82, action directe, l'Iran, la Palestine. Et je voyais que la première nécessité, c'était de prendre en charge les victimes qui ne pouvaient pas se payer leurs soins. Donc, j'ai réussi à faire créer un fonds d'indemnisation, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Fonds de garantie des victimes du terrorisme, qui prend en charge la réparation intégrale des victimes. Et ça a été créé dès 1986. En même temps, j'ai créé l'association SOS Attentat et de nombreuses victimes sont venues me rejoindre. Et le deuxième combat, ça a été le statut de victime civile de guerre, parce que pour moi, dès 86, je pensais qu'on était face à une nouvelle forme de guerre, une guerre en temps de paix qui touchait les populations civiles. Évidemment, le président Mitterrand, pendant 4 ans, m'a dit « il n'en est même pas question, c'est pas la guerre, on en a fini avec le terrorisme ». C'est ce que j'entendrais tout au long de mon parcours. À ce moment-là, je m'obstine et fin 89, j'obtiens un revirement du président qui lance un projet de loi qui est donc la loi du 23 janvier 90 qui accorde ce statut de victime civile de guerre. Donc la France reconnaît que le terrorisme est une nouvelle forme de guerre avec un statut de pupille de la nation protecteur pour les enfants. Troisième combat, ça a été un combat pour évaluer au plan médical les séquelles des victimes blessées. On y reviendra. Quatrième combat, c'était la mémoire. Et donc, on a fait ériger en 98 une statue qui s'appelle « Parole portée à la mémoire de toutes les victimes des attentats » qui est érigée à l'Hôtel national des Invalides puisque c'est une zone militaire et ça correspond au statut de victime civile de guerre. Cinquième combat, ça a été la présence des associations de victimes au procès en tant que partie civile, parce que les victimes n'osaient pas aller devant les tribunaux. Donc, je me disais qu'avec la force d'une association partie civile, les victimes accepteraient de venir dans le prétoire et les magistrats seraient en quelque sorte encouragés à pouvoir juger les terroristes. Ça donnait aussi de la force aux juges d'instruction à l'époque d'enquêter parce qu'on était là tout au long de la procédure à pousser les magistrats, à les aider même s'il y avait des difficultés. Ces victimes, elles présentaient des troubles psychologiques, donc de stress post-traumatique, et avec un tableau que les médecins militaires connaissaient très bien. Les séquelles psychologiques étaient proportionnelles à la gravité des lésions physiques. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des stress post-traumatiques avec des victimes non blessées physiquement, mais que quand il y avait des blessures physiques, il y avait une fréquence de stress post-traumatique plus importante. Et lorsque les attentats de janvier 2015 puis de novembre 2015 ont eu lieu, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises le président Hollande et lors d'un entretien à bâton rompu, il m'a dit « vous avez des projets, quelque chose qui pourra améliorer la prise en charge des victimes ». Je dis « oui, il y a depuis plusieurs années ». Ce qui me tient à cœur, c'est de créer un centre de ressources et de résilience pour les victimes, qui ne serait pas un centre de soins, mais un centre de formation, un centre d'information et un centre qui susciterait des recherches. Il m'a dit « allez-y, travaillez, remettez-moi un rapport ». Et après, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Macron et je lui ai vendu mon projet. Et c'est comme ça que le CN2R a été créé. Je travaille aussi aujourd'hui avec un musée mémorial avec, sous la houlette du président M. Henri Rousseau. Mais ce CN2R... c'est un peu en hommage à mon mari que j'ai réfléchi et sur ces blessures invisibles.
Ça tombe bien que vous évoquiez cette blessure invisible. Vous avez parlé du choc traumatique et du stress post-traumatique. Je voudrais poursuivre avec vous en évoquant cette blessure invisible et en contextualisant en fait cette invisibilité au sein, me semble-t-il, et vous me direz si vous êtes d'accord, d'une société contemporaine qui, elle, met en place une forme d'injonction à la visibilité. Hein. C'est « je suis vu, donc je suis ». C'est un peu un nouveau cogito. Je vais citer deux sociologues, Nicole Aubert et Claudine Haroche, qui évoque, elle, les tyrannies de la visibilité, non seulement comme une condition pour exister socialement, mais aussi comme une forme de violence qui inciterait chacune et chacun d'entre nous à se livrer au regard et au jugement des autres. Je voudrais savoir si vous partagez ce constat d'une injonction à être vue, notamment pour les victimes d'attentats, et en situant dans ce contexte du procès des attentats de novembre 2015.
Je ne retiendrai pas le mot injonction, mais bon, parce que je crois que chacun poursuit le chemin qu'il peut ou qu'il veut suivre. Je sais que la parole libérée, quand on met des mots sur les mots M-A-U-X, c'est important. J'encourageais les victimes lors des procès à témoigner. Et j'essaye de vous raconter une anecdote très courte. Je m'occupais d'une femme portugaise qui avait fui le Portugal à l'époque du régime Salazar et qui était venue en France, qui habitait une chambre de service au 6e étage, qui était couturière. Elle est descendue promener son chien à minuit et elle est passée devant un bâtiment qui exportait des armes. Et à ce moment-là, il y a une bombe d'action directe qui a explosé. Elle est devenue aveugle. Donc, elle ne pouvait plus exercer son métier. Et elle était, après avoir été indemnisée, prise en charge, elle était retournée vivre au Portugal, qui était devenue une démocratie. Et je l'ai fait venir pour le procès. Et cette femme, que je n'avais jamais vue sourire, s'est tournée, mais sans les voir, vers Action Directe en disant « Est-ce que je représente la grande bourgeoisie, le capital est-ce que vous m'assimilez à ce type de combat ?» Et j'ai vu pour la première fois les membres d'Action Directe baisser les yeux et ne rien répondre, mais baisser les yeux. Et ensuite, on est sorti du palais de justice et cette femme m'a souri. Et ce sourire, pour moi, c'est resté à tout jamais très marqué en moi, en disant, je l'ai fait venir, j'étais pas sûre de moi, mais ce sourire, ça valait tous les discours, en me disant, bah, j'ai raison, je continue à proposer, mais pas d'injonction. Et je pense que pour exister, bon, bah, d'abord, certains ont écrit des livres, ce que je trouve très bien, certains peuvent tenir un blog, il y a différentes formes, hein. Il y en a qui vont essayer des nouvelles thérapies et différentes sortes de thérapies. J'assiste depuis début octobre aux témoignages des victimes. On a d'abord eu le Stade de France. C'était impressionnant parce que tout le monde a oublié le Stade de France et pense qu'à part un mort, il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu beaucoup de blessés. Puis ensuite, on a eu les terrasses. Et puis maintenant, le Bataclan avec des témoignages poignants. Je me dis que quelque part, et là j'aimerais que le CN2R se penche sur la question, 6 ans après, les gens ne vont pas bien. Aujourd'hui, avec le CN2R, on peut aller plus loin. On peut réellement avoir une qualité de soins, des formations, des modules en fac de médecine, en fac de psy. Donc, je compte vraiment sur le CN2R, qui est quand même mon dernier bébé, si je puis dire, pour améliorer ça. À partir des témoignages que nous avons eus. Ça nous donne une grande leçon. Alors déjà, au procès, il y a 2-3 victimes qui m'ont dit ou je les ai entendues dire, ça m'a soulagée de témoigner. Pas toutes, peut-être qu'ils l'ont dit, mais je n'ai pas entendu directement. Il y a déjà au moins 3 personnes que j'ai entendues qui disaient vraiment, je me sens soulagée, j'ai l'impression que je vais pouvoir entreprendre un meilleur travail et aller sur ce chemin de la résilience, mais que chacun vit à sa façon, à la vitesse qu'il peut ou qu'il veut. Voilà.
Je voulais vous poser la question finalement sur la finalité peut-être un peu réelle ou symbolique de la tenue de ce procès pour les victimes, les parties civiles. Est-ce que c'est un moment ou un moyen qui marque d'une certaine manière la reconnaissance du trouble psychique par la société? Et en d'autres termes, est-ce qu'il s'agit pour la société et pour les victimes surtout d'accepter de se rendre visible pour être reconnu par la collectivité et aussi pour arriver d'une manière ou d'une autre à s'y trouver une place par elle-même et pour elle-même?
Alors, un procès, là, je vais vous répondre en tant que juriste. Un procès n'a pas cette vocation. La fonction première d'un procès, c'est de juger des auteurs. Et c'est l'honneur d'une démocratie que de juger des terroristes. Bien sûr, je suis hostile à la peine de mort et la peine de mort ne peut plus être appliquée en France. Aujourd'hui, 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Mais c'est l'honneur d'une démocratie que de répondre au terrorisme par le droit et par un état de droit. Donc, c'est ça la fonction première d'un procès. On fait une place que certains trouvent maintenant trop importante aux victimes. C'est-à-dire que là, étant donné la masse des victimes, il y a près de 300 victimes sur les 2200 parties civiles qui vont témoigner. Certains trouvent que c'est trop. Moi, je trouve que c'est très bien. Le procès dure 9 mois, c'est normal. Il y a 5 semaines consacrées aux victimes où elles peuvent s'exprimer devant la cour. En toutes, elles ont perçu quand même que le magistrat, le président, est extraordinaire. Il est très apaisant pour les victimes. Elles peuvent parler autant qu'elles veulent, ce qui est très bien. Mais je ne crois pas qu'elles témoignent pour la société. Je crois que là, c'est un moment pour elles-mêmes, pour un peu vider son sac, en quelque sorte. Alors, certaines se sentent mieux après, ça c'est sûr. Elles vont pour certaines écouter après la suite du procès, je l'espère. C'est la seule fonction d'un procès.
Je vais terminer par une question par rapport à l'expérience que vous avez. De la question des attentats, du traumatisme psychique, votre implication à la racine même du CN2R. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quelles sont les perspectives qu'il faut ouvrir? Et comment est-ce qu'on peut œuvrer pour une meilleure reconnaissance du trauma psychique au sein de notre société?
Je crois qu'il faut faire aussi de l'information auprès du grand public, en disant « soyez solidaires, c'est la nation qui a été visée ». Il ne faut jamais oublier que dans le terrorisme, contrairement aux accidents collectifs ou de catastrophes, c'est que c'est la nation qui est visée. Donc la nation se doit d'être aux côtés des victimes. Ça peut être chacun d'entre nous demain qui sera victime. Et donc cette solidarité, elle doit s'exercer aussi à travers une meilleure information que le CN2R doit être en mesure de fournir.
Madame Rudetsky, oui. Je vous remercie pour cet entretien qui s'achève. Au nom de toute l'équipe du CN2R, voilà, je suis enchantée d'avoir pu m'entretenir avec vous et j'espère que nous avons éclairé nos auditeurs sur les questions multiples et complexes qui entoure à la fois le traumatisme psychique et bien évidemment ce procès des attentats du 13 novembre 2015. Encore une fois, merci.
Et merci à nos auditeurs. Merci à vous de m'avoir écouté.
À très bientôt pour la série qui se poursuivra.